Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 27e épisode, je reçois Amandine, qui est accompagnante en périnatalité. Après avoir travaillé 5 ans en tant que travailleuse sociale, elle s'est formée à la périnatalité et à l'hypnose avant de créer Naissance Infinie. Elle propose aujourd'hui des accompagnements pendant la grossesse, l'accouchement et la période du postpartum. Dans cet épisode, on aborde cette période où l'on vient d'accoucher, où notre corps est meurtri et où l'équilibre familial est chamboulé, à savoir le 4e trimestre, aussi appelé mois d'or ou postpartum. Amandine explique ce qui se passe pendant cette période, pourquoi elle peut être difficile à traverser, mais aussi pourquoi elle est primordiale. Elle détaille comment la préparer et l'accompagner au mieux, à la fois pour nous-mêmes, avec le second parent, mais également avec la fratrie, à la fois d'un point de vue logistique et nutritionnel, car l'alimentation joue un rôle essentiel durant cette période. Elle rappelle l'importance du lien qui se crée avec ce nouveau-né. Enfin, elle aborde pourquoi ce n'est pas que du bonheur, pourquoi c'est normal de ne pas se sentir immédiatement parent, et l'importance de prendre du temps pour se connecter à notre bébé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Amandine.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Ben merci à toi pour ton invitation.
Avec toi, on va parler du 4e trimestre, le fameux 4e trimestre. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton parcours et quel est ton métier, s'il te plaît ?
Oui, avec plaisir. Alors, je suis Amandine. J'ai été travailleuse sociale pendant 5 ans. Et donc, j'ai accompagné des gens en difficulté, en précarité. Et quand j'ai eu mon petit garçon, je me suis dit qu'en fait, la précarité, elle commençait dès la grossesse et dès la naissance. Et je me suis dit que c'était plus intéressant de travailler d'abord sur la prévention, sur l'accompagnement et le soutien bienveillant, plutôt que sur tout ce qui est curatif. Donc, je me suis orientée vers une branche qui fait partie des secteurs sociaux, qui est l'accompagnement donc périnatal. Donc, pour cela, j'ai été me former à l'accompagnement périnatal à Bordeaux. Et puis, ça me permet maintenant de pouvoir accompagner les femmes sur tout ce qui est émotionnel et pratique durant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Voilà. Et puis, en parallèle, j'ai aussi un diplôme de praticienne en hypnose pour me permettre des fois d'offrir aussi des temps de détente, des soupapes aux futurs, aux jeunes parents qui en ont des fois grand besoin.
Ok. Est-ce que c'est un accompagnement qui peut être pris en charge par une CAF ou par la Sécu, ou c'est uniquement à la charge des familles ?
Alors malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge ni de la CAF ni de la Sécu. La Sécu, c'est tout bonnement justifié parce que c'est pas une profession médicale, donc il n'y a pas lieu qu'on soit pris en charge par la Sécurité sociale. Mais en effet, par la CAF, ce serait quelque chose de très cohérent puisque c'est vraiment un secteur social de prévention précoce. Donc c'est pas financé en effet, mais il peut y avoir aussi des rendez-vous qui peuvent être financés par la famille, qui peuvent être des cadeaux de naissance plutôt que d'avoir trois fois le même doudou ou des choses qui serviront peut-être pas. Plutôt que du matériel, des fois c'est bien aussi de se faire offrir des temps d'accompagnement, des temps d'accueil, parce que voilà, le matériel globalement il se remplace. Mais ce qu'on ressent, ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on élabore pendant la parentalité, pendant le désir de parentalité et tout ce cheminement qui va du désir jusqu'à la parentalité en elle-même, et ben pour le coup, c'est vraiment très très important de l'accompagner et pourquoi pas de se faire offrir ça.
Oui. Est-ce que en ces temps de Covid et de couvre-feu, confinement, déconfinement, reconfinement, tu fais des accompagnements en distanciel ou uniquement en présentiel ?
Je fais les deux. Je fais le distanciel pour principalement des ateliers de groupe, parce que je fais des ateliers de groupe aussi, et individuels, parce qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise de faire des ateliers de groupe, puis d'autres qui sont plus à l'aise vraiment dans le côté cocooning personnalisé. Et puis les accompagnements, soit je les fais individuels, soit je les fais à la maison de la personne au domicile, soit je les fais en virtuel aussi.
D'accord, ok. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on appelle le quatrième trimestre ? Alors j'avoue que moi, pendant mes grossesses, je n'en avais pas entendu parler à l'époque. Depuis, on en entend un peu plus parler, je pense. Mais je pense que c'est important de rappeler ce que c'est que ce quatrième trimestre.
Alors, c'est une excellente question et c'est une excellente réflexion que tu fais, c'est qu'on n'entend pas forcément parler. Et c'est quelque chose qui est très sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les familles, elles sont très éclatées au niveau géographique et éclatées aussi au niveau familial, parfois. Donc, ce qui fait que, on peut avoir des parents qui sont dans le nord, nous habiter dans le sud de la France, et puis des cousins ou une sœur qui est frontalier avec l'Allemagne. Enfin, on peut avoir vraiment tout type de schémas familiaux. Et du coup, il y a aussi, bien sûr, l'immigration. Il y a des personnes qui arrivent de l'étranger et qui, de fait, sont déracinées et qui n'ont pas leur famille avec eux, avec d'autres cultures, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve quand même globalement seul quand on est avec son enfant. Donc, tant que l'enfant, on est en cours de grossesse, on ne le voit pas forcément parce que y a les rendez-vous médicaux, il y a tout ça, en fait. Et puis, on est toujours, on est à deux, mais on se gère tout seul. Il n'y a pas d'interaction comment qui nous pousse, par exemple, à dire à telle heure, je dois faire ça ou je dois faire ça. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évoqué. Avant, il y avait cette structure familiale où si on n'était pas dans la même maison, on pouvait potentiellement être à proximité. Il y a encore deux générations, ça, c'était quand même, on va dire, plus la norme. Et du coup, ça permettait de donner, par exemple, en garde le bébé à sa maman, à sa belle-mère, de donner, par exemple, un coup de main à une maman qui vient d'avoir un bébé, de lui faire un petit coup de repassage, de lui préparer à manger pour elle, pour son mari, etc. Aujourd'hui, on sort de ce schéma familial. Et j'ai envie de dire, on en est sorti et puis la société nous a peut-être un peu vendu du rêve. On est des femmes indépendantes, on est des femmes libres, on est féministes. C'est super de prendre toutes ces valeurs en compte. Mais du coup, ça peut aussi mettre une barrière dans le sens où le quatrième trimestre, donc qui est la période post-accouchement, on est toute seule. On est toute seule, alors on peut se renfermer toute seule en se disant je vais rester toute seule puisqu'on ne m'en a pas parlé. C'est que c'est logique, je dois assumer ce volet-là. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a la non-connaissance tout simplement de ce phénomène.
Le quatrième trimestre, c'est vraiment cette période des 3 mois qui suit l'accouchement et qu'on appelle quatrième trimestre comme quelque part un quatrième trimestre qui continue la grossesse, qui à elle fait 3 trimestres.
C'est ça. Alors, on peut l'appeler quatrième trimestre, mais aussi on peut l'appeler différemment. Et c'est encore une fois suivant les cultures. Si on s'intéresse un petit peu à l'anthropologie, si on s'intéresse un petit peu aux cultures autour, on peut voir que... il n'a pas forcément de limite en termes de date, de durée. Il y a des civilisations où on va être sur 40 jours après l'accouchement. Et puis, il y a des civilisations où on va être un petit peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment juste cette notion de quatrième trimestre. Moi, pour moi, je l'entends, je la reçois comme une durée en fait, d'adaptation. Voilà, c'est un temps d'adaptation et il est vraiment appelé quatrième trimestre pour dire que c'est la prolongation de la grossesse, c'est la prolongation de tout ce phénomène de parentalité. On ne devient pas forcément parent quand le bébé naît, on devient père, on devient mère, mais on ne devient pas encore papa et maman. Tu vois la nuance, pour moi, elle est vraiment là. Et du coup, bah, suivant les civilisations, en effet, y a ce quatrième trimestre, ce mois d'or, ce postpartum qui peut être plus ou moins long, où on attend plus ou moins de choses de la maman ou du bébé, où il y a beaucoup, beaucoup de variantes. En tout cas, il est fédérateur et il est là, en fait, pour créer du lien. Au-delà de tout, il est là pour créer un lien fort, durable, de confiance et de confiance mutuelle et de confiance en soi.
De lien entre qui ? Entre l'enfant et les parents ?
Entre l'enfant et les parents et l'enfant, tout, enfin voilà, dans les deux sens. Et aussi une espèce d'élévation des parents qui se sentent parents. Ça y est, ils ne sont pas que père et mère, ils sont papa, maman de cet enfant, de leur enfant. C'est vraiment le cas, on rencontre un étranger à la naissance et je pense qu'il faut oser le dire. L'enfant rencontre des odeurs qu'il connaît, il rencontre des sensations qu'il connaît, mais c'est quand même des rencontres d'êtres humains et il faut, comme dans toute rencontre, apprendre à se connaître.
Ok, alors si on rentre un peu plus dans le détail de cette période, qu'est-ce qui va se passer pour la maman, pour le bébé pendant ce temps-là, physiquement et psychiquement ?
Il y a énormément de choses qui se passent dans cette période. Ben déjà, la première étape, c'est quand même la naissance. C'est juste après la naissance, on rentre déjà dans le postpartum. Et il y a du coup pour la maman un changement physique. Elle découvre son bébé, elle est plus intègre à lui, ils font plus partie l'un de l'autre. Donc il va falloir apprendre à connaître. Donc ça, c'est vraiment le changement, on va dire, majeur. Son corps, il peut être tuméfié par l'accouchement. Ça aussi, c'est quelque chose que on a tendance à tourner tous les regards vers le bébé à la naissance. Mais la maman, c'est une personne. Et au final, elle a des mots et elle aimerait bien pouvoir des fois mettre juste des mots sur ses mots. Parce que c'est pas évident. Il y a sa chute hormonale aussi. Hein, donc du coup, on peut avoir un joli baby blues qui arrive et plutôt que de vouloir à tout prix freiner les choses, juste accompagner cette période, c'est déjà très bien. Et du côté du bébé, il était dans une petite bulle, il était dans le liquide, il était au chaud, il était bien, il était un peu, j'ai envie de dire, comme suspendu, voilà, dans un espace-temps, quelque chose qui n'a pas franchement de définition. Et quand il arrive, il découvre le froid, il découvre la faim, il découvre la pesanteur, le poids de son corps, il découvre le visage de ses parents et il découvre qu'il va devoir communiquer avec ses parents. Et ça passe par les pleurs et du coup, il y a une espèce de jeu d'interaction qui va se faire entre les parents et le bébé pour justement apprendre à communiquer et à se comprendre, du coup.
C'est vrai que, alors, pour une deuxième grossesse, on découvre un peu moins ce que c'est, mais pour une première grossesse, c'est très difficile de s'imaginer l'état dans lequel va être notre corps après l'accouchement. Moi, j'avais pas du tout imaginé que j'allais être si fatiguée, que j'allais avoir potentiellement mal au ventre, que faire pipi ou caca allait devenir une difficulté pendant quelques jours. Je pense que même si on me l'a dit, j'avais pas imaginé que ça ressemblerait à ça, et à quel point j'aurais besoin, moi aussi, de me reposer et de prendre soin de moi à ce moment-là. Comment on fait pour justement ne pas se faire embarquer dans le tourbillon après la naissance et pouvoir prendre un peu soin de soi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour la maternité, pour le retour à la maison, pour que quelque part on ait cette bulle de douceur dont on peut avoir besoin à ce moment-là qui se mette en œuvre?
Il y a plein de choses à mettre en place. Je pars du principe qu'en effet, s'informer, c'est la base. S'informer, mais aussi intégrer, être actrice de son postpartum. Et être actrice de son postpartum, c'est commencer par le préparer pendant la grossesse déjà. Se dire okay. Que ben, je sais que je vais avoir du travail avec un bébé, mais ça c'est pareil, c'est des éléments qui sont peu dits, peu mis en avant, peu valorisés dans notre société, où au final, avoir un enfant... ne doit représenter que une forme de bonheur, hein, et qui c'est presque honteux de dire qu'on est fatigué d'ailleurs, hein, qu'on ne doit pas recevoir toute la famille et faire repas du nouvel an au plein mois d'août. Mais enfin voilà, c'est aussi intéressant de se dire que pendant la grossesse, il y a des choses à faire. On peut préparer son postpartum clairement en préparant déjà avec le papa peut-être l'organisation, en se projetant comment je vais m'organiser avec un bébé. Qui va donner à manger? Qui va donner le bain? Est-ce que le bain, on le fait tous les jours ou est-ce qu'on le fait une fois tous les deux jours ou trois jours? Voilà, tout ça, c'est des petites questions qui ne sont pas des choses qui vont nous emmener dans une réflexion profonde, mais en même temps qui peuvent nous projeter facilement dans la vie de parents. Dire, ben, ouais, en effet, c'est vrai, il y a des petites choses techniques et puis du coup... il y a aussi notre quotidien, se dire, bah tiens, moi d'habitude, je lave le sol tous les jours. Mais si je ne peux pas laver le sol tous les jours, comment ça se passe? Est-ce que c'est une tâche qui, pour moi, ben, je me dis, oh, après tout, si c'est lavé tous les trois jours, je m'en fiche. Et puis, il y a d'autres personnes chez qui ça va être, bah non, moi, pour moi, voilà, j'ai des animaux de compagnie, par exemple, c'est hyper important de laver tous les jours. En fait, il ne faut pas qu'on transforme ça en lutte de frustration. C'est-à-dire que ça ne doit pas être des abandons de choses, ça doit être des choses où on se dit, ben là, je peux lâcher parce que ce n'est pas important finalement, ce n'est pas si important, et en tout cas pour une période donnée. Donc là, voilà, ça va être vraiment d'un travail de projection quand on est pendant la grossesse, mais aussi sur c'est ce que je disais, tu vois, l'accompagnement émotionnel, moi j'emmène les parents à se projeter. Comment on va faire? Comment ça va être? Et puis je les amène aussi sur le côté pratique. Ben, ce serait pratique peut-être si monsieur, le compagnon ou la compagne bah, pose quelques jours de congés supplémentaires pour pouvoir rester durant cette période, être un pilier, un soutien. Et puis peut-être que ce serait bien là pendant que vous êtes enceinte, est-ce que vous avez déjà pensé à faire comment vous allez manger? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire quelques réserves de nourriture? Préparer par exemple des plats congelés, des choses qui sont vraiment basiques pour le coup. Et quand on est à la maison, des fois, ben, on peut s'ennuyer. Ça peut être en fin de grossesse, on peut se dire, ben, puis là, encore plus avec le confinement où on n'est pas forcément amené à beaucoup sortir, ben, peut-être se dire, ben, tiens, j'ai un peu de temps si je me préparais deux, trois plats d'avance, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur le côté pratique. Et ça peut se faire pendant la grossesse. Après, oui. Pour tout ce qui va être postpartum, ben, on peut préparer en se disant, ben, tiens, j'aurais peut-être besoin d'avoir à côté du lit, par exemple, tout ce qu'il me faut, mes bouteilles d'eau, mes mouchoirs, j'aurais peut-être besoin d'avoir en réconfort une boîte de chocolat. Enfin, c'est des choses qui peuvent être tellement simples à mettre en place, mais qui peuvent vraiment faire du bien au moral. Et ça, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment se projeter dans ces choses-là. Et puis, bah, comme tu disais, il y a le corps qui est aussi tumifié quelque part. Hein, quand tu dis « je ne m'attendais pas à ces changements physiques bah », aussi, pourquoi pas, si on veut vraiment être dans le cocooning et dans des choses comme ça, bah, pourquoi pas se dire bah, « j'aimerais bien que mon accompagnante elle vienne me faire du toucher-massage pour pouvoir me relaxer, pouvoir être bien ». Et puis, bah, il y a toutes ces choses-là. Et puis, bah, quand tu es, pour le coup, en postpartum à la maison, bah, c'est vraiment là, pour le coup, le repos. Le repos, la connexion avec le bébé, avec le papa, apprendre à se connaître avec le frère ou la sœur, ou les frères et sœurs s'il y a d'autres enfants. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment un temps qui est dédié pour faire connaissance. Se dire, bah, tiens, le bébé, là, il bouge de telle façon, ça veut dire qu'il a faim. Il bouge de telle façon, ça veut dire qu'il a besoin d'un câlin. Et en fait, tout ce temps qu'on peut se dire, mais c'est vraiment du temps on va pas faire que ça de la journée, de regarder un bébé. Mais tout ce temps qui est pris, plus il est pris tôt et de manière vraiment investie, plus les choses elles vont se mettre en route facilement, naturellement, et plus la vie de tous les jours pourra reprendre un cours bien sûr différent parce qu'il y a une nouvelle personne, mais en tout cas un cours qui ressemble à tout le monde.
Au début, des fois, on se dit, mais j'ai pas fait que ça dans ma journée quand même. J'ai l'impression de n'avoir rien fait à part dormir, donner à manger, changer une couche et regarder mon bébé béatement sur le canapé.
Mais c'est énorme tout ça.
Il peut y avoir un peu de culpabilité des fois, des mamans qui ont l'impression de n'avoir rien fait. Mais en fait, non, vous n'avez pas rien fait. Vous avez créé du lien avec votre enfant et ça vous sera très utile.
Et c'est énorme. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et on peut pas dire qu'on fait rien quand on consacre du temps à quelqu'un. Peu importe qui que ce soit, d'ailleurs. Consacrer du temps à l'autre, c'est pas faire rien.
Oui. Quand il y a des frères et sœurs qui sont déjà à la maison, comment on peut préparer des choses pour eux pour que cette transition elle soit plus douce aussi ?
Ben écoute, Charline, c'est une très très bonne question parce qu'en effet, on a l'impression que dans le postpartum, pour le coup, ben on se concentre sur soi et sur le nouvel arrivant. Mais s'il y a quelqu'un avant, c'est important de ne pas l'oublier parce que c'est une personne qui fait partie de la famille, qui a son mot à dire, qui a des émotions, voilà, qui sont traversées par des choses qui peuvent être plus ou moins agréables pour eux. Parfois, ben voilà, c'est très bien vécu de devenir grand frère ou grande sœur. Et puis parfois, ben justement, on voit sa maman, son papa, très attentif avec un autre enfant. Je pense que ça doit être quelque chose de difficile parfois à vivre. Et là, c'est important aussi, ben, dans cette fameuse liste de tâches et de priorités qu'on peut faire pendant la grossesse, de ce qui est important et pas important, ben, c'est pas une tâche, mais en tout cas, il faut en tout cas rester régulier en se disant « Bah oui, aujourd'hui, je passe l'après-midi avec mes aînés ou mon aîné. Je passe 2 heures et le temps va être augmenté. Hein, plus on avance dans le postpartum, plus tout se met en route et donc plus on a de temps pour les aînés. » Donc ça, c'est important, je pense aussi, de voir que, ben, en effet, dire « Bah voilà, peut-être au départ être honnête avec son aîné en disant bah écoute, tu vois, la maman elle va être fatiguée pendant quelques jours, pendant quelques temps. On t'oublie pas, papa il pourra peut-être faire plein de choses que t'as pas encore essayé. Et maintenant que tu as grandi, que tu es devenu un grand frère, une grande sœur, tu vas pouvoir faire telle ou telle chose. Et aussi, je pense, valoriser cette période pour l'enfant qui est l'aîné en disant bah écoute, là tu vas avoir accès à des responsabilités que tu n'avais pas avant. Bien sûr, les tourner de manière positive et en gardant à l'esprit que c'est un enfant et qu'il a besoin de ses parents. Mais par contre, voilà, faut être très honnête avec les enfants. Bah écoute, maman, elle vient d'avoir un bébé et je comprends pas comment il me parle encore, ton petit frère ou ta petite sœur. Donc j'ai besoin de vite comprendre pour vite pouvoir refaire plein de choses avec toi. Et voilà. Et puis quand on est débordé, ben faut le dire aussi à ses enfants. Ben là, je suis débordée. Et on peut pas montrer aux enfants une image parfaite parce qu'on ne l'est pas. Et en leur donnant une image parfaite, on leur renvoie l'image qu'ils devraient être parfaits. Et ça, c'est pas possible. Personne ne l'est.
Ok. Souvent, on entend l'expression « avoir un bébé, c'est que du bonheur ». Est-ce qu'on a le droit de trouver, une fois que notre bébé il est là, que c'est pas que du bonheur finalement et que parfois c'est dur aussi ?
Ah ben, y a rien de plus dur que d'avoir un bébé. Il y a des personnes qui vont s'adapter très vite et qui vont très très vite comprendre le mécanisme, les fonctionnements, les pleurs, etc. Puis il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué parce qu'ils vont avoir un bébé qui pleure beaucoup, parce que lui aussi, hein, il a ses particularités comme chaque enfant, parce que ça va être un bébé qui va avoir un reflux, parce que ça va être un bébé qui demande beaucoup les bras, parce que c'est c'est sa physiologie en même temps d'être porté. Et tout ça, en effet, c'est pas que du bonheur. Il peut y avoir des grands moments de détresse, de pleurs, de pleurs de joie, de pleurs de tristesse, de se dire bah, je ne comprends pas. On peut ne pas comprendre les besoins d'un bébé. On arrivera à les comprendre à un moment ou à un autre. Si par contre cette incompréhension, cette détresse, elle perdure, il faut vraiment se faire aider. La détresse, quand elle est installée, elle passe rarement toute seule. Et je pense que c'est important d'oser demander de l'aide. Et en effet, avoir un bébé, ce n'est pas que du bonheur.
Oui, c'est normal de trouver que notre enfant, c'est pas que du bonheur et que par moment, on aimerait bien pouvoir dormir 3 heures d'affilée sans avoir 4 biberons à préparer.
Exactement. Et puis aussi, c'est pas parce qu'on, c'est pas que du bonheur et que parfois, eh ben, on est débordé, on est saturé, parce que nous aussi, on est des personnes et qu'on a nos limites, nos faiblesses, on a nos besoins aussi. Et si tout ça, c'est pas satisfait pour nous, eh ben, nous aussi, on peut dire, ben là, pour moi, c'est trop, c'est stop. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas son enfant. On peut l'aimer profondément et ressentir toutes ces choses qui sont de trop.
Oui. Est-ce que pour le corps, la remise en forme du corps après l'accouchement, il y a des choses qu'on peut mettre en place et surtout des choses à ne pas faire ?
Alors, il y a plein de choses au niveau alimentaire, en effet. Déjà, l'important... Moi, j'aime bien prendre en référence des cultures qui me parlent et la culture maghrébine me parle vraiment beaucoup de par mon histoire, ma culture. Et en effet, voilà, c'est toujours une nourriture qui est facilement digérée, mais qui est en même temps riche. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il faut que ce soit une nourriture chaude, épicée, quelque chose qui, en gros, qui va stimuler le corps. Voilà, le but, c'est vraiment de maintenir en fait une nourriture réconfortante. Voilà, je cherchais le terme, mais c'est ça, c'est quelque chose de réconfortant, de nourrissant. Donc, tout ce qui va être fruits secs, oléagineux, toutes ces choses-là, en fait, vont être très bonnes. Les pains complets, les choses qui vont apporter une plus-value au niveau nutritif. Ça, c'est hyper important. Après, ce qui n'est pas à manger, j'ai envie de dire, s'il y a des choses qui nous font plaisir, c'est bien de les manger. Mais en effet, il y a des choses qui vont nous faire plaisir, mais qui ne vont pas nous nourrir et qui font que quand on n'est pas bien au niveau alimentaire, notre esprit va s'en ressentir également. Et du coup, s'il s'en ressent, il y a certains baby blues, certaines dépressions qui peuvent être aussi liées à l'alimentation. Et je pense que ça, c'est pas rien de le dire non plus.
Ok, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure de se préparer des plats à l'avance et de les congeler ou alors de s'acheter des conserves si on n'a pas de congélateur et qu'on n'a pas envie de cuisiner. C'est important aussi pour pouvoir bien récupérer et avoir l'esprit tranquille par rapport à ça.
L'esprit tranquille et puis te dire qu'en fait, plutôt que de manger un morceau de pain avec un yaourt, c'est quand même vachement plus sympa de réchauffer une barquette où on s'est fait des petites lasagnes ou des choses qui sont réconfortantes, qui nous plaisent, plutôt que de manger en se disant parce qu'il faut que je me dépêche, parce que j'ai une douche à prendre, parce que mon bébé pleure, parce que après il faut que j'aille à l'école chercher les grands. Tout ça, ça met du stress. Et le stress, c'est à éviter pendant la période postnatale. En tout cas, le stress récurrent. Voilà, on est tous sous le stress tous les jours. On ne vit pas dans une bulle. Mais en tout cas, limiter le stress. Tout ce qu'on peut limiter, allons-y. Et puis après, si on a envie de manger, comme je te dis, un chocolat parce que ça nous fait plaisir,
pas gênant.
On ne s'interdit pas, mais juste, c'est plus agréable d'avoir un bon plat chaud que de manger sur le pouce tous les jours.
C'est vrai que c'est hyper important et en particulier quand les papas vont reprendre le boulot parce que malheureusement en France on a un congé paternité qui est assez court et donc quand on se retrouve tout seul les premiers jours avec son bébé, c'est pas toujours simple et donc d'avoir quelque chose de réconfortant mais qui est déjà prêt à manger, c'est aussi hyper important.
Ah oui, totalement. Et du coup, si les papas qui vont être papas au mois de juillet-août nous écoutent, ils vont peut-être avoir donc un peu plus de temps. Et ils pourront peut-être aussi préparer quelques petits plats pour leur reprise après.
Ok. Donc là, on a parlé beaucoup des difficultés. Et je trouve ça chouette parce que effectivement, c'est pas que du bonheur. Mais il y a quand même aussi beaucoup de bonheur quand on rencontre son bébé. Est-ce que tu peux, pour finir sur une note positive, nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec dans la tête de notre bébé pendant ces quelques premiers jours, premières semaines et qu'on va prendre plaisir à observer nous en tant que parents?
Déjà, oui, comme tu dis, le postpartum, il est fait pour être un moment de découverte et de bonheur. Faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il est accompagné dans plein de civilisations. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour créer du lien. Et donc, je pense que vraiment, la chose, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu dis ça, c'est les regards, c'est les échanges de regards. Un bébé qui va ouvrir les yeux sur ses parents et qui va juste regarder leur visage et les contempler. Et ça, c'est merveilleux parce que du coup, son regard va nous happer en fait. Et on va plonger dans dans les yeux les uns des autres. Et je trouve que ça, c'est vraiment une découverte formidable. On passe énormément de choses par le regard. Et les bébés, ils savent déjà d'entrée nous capter. Donc, ils sont vraiment dans cette recherche de communication. Et j'ai envie de dire, si à un moment, nous, en tant que parents, on est désarçonnés, on ne sait plus comment communiquer, eh ben, on se pose, on arrête tout et juste on regarde. On prend le temps de regarder. Et ce n'est pas quelque chose d'évident dans notre société de prendre le temps de regarder parce qu'on est toujours dans la course, dans le plus, le faire. Le faire plutôt que l'être. Et rencontrer son bébé, c'est l'observer et c'est vraiment être uniquement dans l'être et plus dans le faire.
Est-ce que pendant ces phases-là de câlin et de regard, alors c'est vrai que c'est très contradictoire des fois en postpartum parce qu'on a des phases où on est très fatigué et où c'est difficile. Et en même temps, quand on a ces regards avec son enfant et on a des phases d'extase totale où on se dit quand même notre bébé c'est le plus beau du monde. Est-ce qu'il y a de l'ocytocine qui rentre en ligne de compte aussi et qui peut aider un petit peu dans la période postpartum ?
Ah oui, bah, l'ocytocine, elle aide pour tout. Hein. Postpartum, vie de tous les jours, elle nous porte, hein, cette hormone. Hein, et c'est important. Et comme tu dis, je pense aussi, bah, l'important, c'est aussi ces moments de tendresse, ces moments de câlin, ces moments où on peut prendre son bébé dans les bras et où on s'autorise à le prendre. Il y a beaucoup de cododo en ce moment qui sont proposés et des choses de cet ordre-là, du portage. Toutes ces choses-là, elles sont bénéfiques pour le lien. Elles sont bénéfiques, elles sont... Et du coup, elles font qu'on peut observer, câliner et prendre vraiment sa dose d'amour et d'ocytocine en même temps. Donc du coup, bah, quand on est bien, on rend les autres bien.
Bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Est-ce que toi, tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet ?
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à voilà, se faire accompagner, à oser vivre cette période et à oser la préparer et se dire que c'est, ça n'appartient pas au passé. C'est au contraire, c'est l'avenir, hein, l'accueil qu'on réserve à nos bébés, c'est l'avenir qu'on leur propose d'être avec eux, d'être entouré et de leur dire qu'en fait la vie c'est pas qu'une course mais c'est en fait beaucoup d'amour, beaucoup de partage et qu'on peut faire ce partage dès la naissance.
Ok, mais écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup.
Merci Charline, ça m'a fait énormément plaisir, merci.
Cet épisode touche à sa fin. La période du quatrième trimestre est difficile par le tourbillon qu'elle amène, mais elle est aussi essentielle pour la construction de la famille. N'oubliez pas que malgré les difficultés, ce n'est qu'une période et que les choses vont se mettre en place petit à petit. Dans le cas où la détresse est plus profonde ou plus durable, cela peut être le signe d'une dépression postpartum. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous pouvez écouter l'épisode 21 avec Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues à ce sujet. Pour en savoir plus sur les accompagnements proposés par Amandine, vous pouvez consulter son site internet www.naissanceinfinie.fr au pluriel. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.